Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Grâce Hamzati.
À la une de l'actualité ce soir sur Radio Kapi, plusieurs écoles des secteurs de Walingola, Babira et Bakumu Mangongo du territoire de Bundu dans la province de la Tchopo ne sont pas opérationnels depuis 8 mois. À la base, le départ des enseignants de ces milieux à cause du conflit interethnique Mbolelengola. C'est mercredi 31 janvier 2024. Ça fait pratiquement 5 jours sans énergie électrique ni eau de la régie des eaux dans la ville de Kalemie et ses environs à cause d'une panne technique. Conséquence, les habitants de Kalemie recourent à l'eau du lac Tanganyika. Reportage à suivre avec Paul Mounanga dans ce journal. La journée mondiale de lutte contre la lèpre est célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Dans la province du Sud Kivu, 55 cas de cette maladie ont été détectés en 2023, composés majoritairement des hommes. Nous en parlons avant la fin de ce journal avec notre invité, le docteur Freddy Birembano, médecin coordonnateur provincial du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Dans la province de la Tchopo, pour commencer, plusieurs écoles des deux secteurs du territoire d'Ubundu ne sont pas opérationnelles depuis 8 mois. Il s'agit de celles implantées dans les secteurs de Walingola, Babira et Bakumu, Mangongo. En cause, le départ des enseignants de ces milieux à la suite du conflit interethnique Mbolelengola. Alors que le sous-prophète et les parents réclament la reprise des enseignements dans ces milieux, l'administrateur du territoire d'Ubundu déclare que les autorités politico-administratives ont déjà été saisies et sur cette question, non seulement dans le secteur de l'enseignement, mais aussi dans celui de la santé. Jacques Mukonkole.
Dans ces deux secteurs, quelques enseignants ainsi que certains élèves ont perdu la vie suite au conflit intercommunautaire. Sur l'axe Bakumu-Mangongo, 12 écoles seulement sont opérationnelles sur les 24 existantes. Du côté du secteur de Walingola-Babira, 6 écoles sur 18 ne fonctionnent pas non plus, faute du personnel, selon le sous-prophète Ubuntu 1, Gérard Mafinani.
Jusqu'à maintenant, il y a des écoles qu'on a même brûlées, qui jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne plus. Il y a d'autres bâtiments qui sont tombés. On ne sait pas comment remédier la situation.
Le problème ne se pose pas seulement au niveau de l'enseignement, déclare l'administrateur du territoire d'Ubundu. Verdoteya Moulamba renseigne que le secteur de la santé n'est pas non plus épargné des conséquences de ces conflits tribales.
Il y a aussi des postes de santé, des centres de santé, où il n'y a pas des infirmiers. Ils ont quitté leur milieu pour se sauver. Du côté éducation, il y a un problème. Du côté aussi santé, il y a un problème.
Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur déclare avoir déjà réglé le problème sécuritaire dans ses milieux. Jean-Norbert Lokoula précise qu'il a même déjà saisi ses collègues de l'EPST et de la santé pour qu'ils puissent s'occuper chacun de son secteur. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Et au Congo central, le ministre provincial de l'Intérieur décrète un couvre-feu de 5 jours à Kimpese pour permettre aux autorités locales de reprendre le contrôle de la situation. Cette cité est en effet secouée depuis le lundi par des manifestations qui ont déjà coûté la vie à 4 personnes, dont 3 policiers. La population dénonce l'insécurité qui cible ces derniers temps les hôpitaux et autres centres de santé de la cité. Hier mardi, le comité des crises mis sur pied à cet effet s'est rendu sur place. Une correspondance de Nana Plurichimambu, notre permanente à Matadi.
D'après les commissaires provinciaux de la police du Congo central, Israël Kantoubakoulou, qui a fait partie de cette délégation, les calmes règnent ce matin à Kimpese, mais il signale la présence des groupuscules de jeunes surtout qui se créent dans les rues. Pour baisser la tension observée sur place, ce comité a décidé d'évacuer les blessés au nombre de 9 vers les hôpitaux de Kinshasa et de libérer tous les manifestants qui ont été interpellés lors des échauffourées contre les forces de l'ordre. Composé du ministre provincial de l'Intérieur, les chargés des renseignements, la police, la garde républicaine et les coordonnateurs du cadre de concertation de la société civile du Congo central, le comité de crise va visiter les magasins pillés, les bureaux, domiciles et autres véhicules incendiés hier mardi. Israël Kantoubakoulou affirme que ce matin tout est calme et le trafic a repris sur la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa. Rappelons que ces manifestations de 2 jours qui ont fait 4 morts et plusieurs blessés sont nées d'un mouvement des villes mortes organisé le lundi pour exiger le changement de tous les effectifs de la PNC à Kimpese. La population les soupçonne d'être complices de l'insécurité grandissante qui secoue la cité ces jours-ci. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Par ailleurs, au moins 8 civils ont été encore tués hier dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Vuchika, un village situé à l'ouest de Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon la société civile et les autorités locales, les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Oicha. Ce matin, la fouille se poursuivait toujours dans l'espoir de retrouver d'éventuels disparus, dont la plupart étaient des membres d'une église locale, nous dit André Kitenge.
Cette énième attaque intervient 24 heures après celle qui a causé 8 morts lundi à Matadi et Kangai, deux villages du groupement de Babila Bakaiko toujours dans le territoire de Beni. Selon Nicolas Kikuku, le bourgmestre de la commune rurale d'Oicha, les victimes de l'attaque d'hier à Vuchika ont été tuées à l'armée blanche. Il s'agit des adeptes d'une église chrétienne de la place. Elles ont été surprises en plein culte par les assaillants. Une trentaine d'autres personnes ont également été prises en otage au cours de cette nouvelle attaque des rebelles des ADF, indique-t-il. L'information est confirmée par la société civile locale qui déplore cette énième attaque des ADF contre les civils dans la région. Pour l'instant, indique le bourgmestre de la commune rurale d'Oicha, plusieurs familles sollicitent l'accompagnement de l'armée pour se rendre sur le lieu de l'attaque pour tenter de retrouver les membres de leur famille qui n'ont pas répondu à l'appel. L'armée, qui n'a pas encore donné sa réaction, serait en train de pourchasser les assaillants qui ont pris la direction de l'ouest de la route nationale numéro 4. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et puis, au Nord Kivu, l'armée poursuit des bombardements par l'artillerie ce mercredi sur les positions des rebelles dans la zone des Karuba, Mushaki et Musekera, une dizaine de kilomètres de Sake vers les collines. D'après nos sources, les FRDC et les groupes armés locaux maintiennent la pression pour tenter de déloger les rebelles qui occupent ces localités du groupement Bachali. C'est depuis plus d'une semaine que cette région connaît des affrontements violents à l'arme lourde, occasionnant des dégâts collatéraux importants. À noter également, au passage, la visite lundi dernier des autorités provinciales aux blessés, habitants des Sake ainsi que les familles victimes des bombardements. Le bilan fait état de 2 personnes tuées, 12 blessés graves et 7 maisons détruites, affirme la société civile des Kamuronza. Il convient de signaler qu'une accalmie relative s'observe depuis le week-end dernier dans la zone de Mweso Kichanga, en groupement Bachali Mokoto, toujours occupée par les rebelles du M23. Pendant ce temps, le village Kintia, situé à plus de 70 km de Mitwaba, centre et vidé de sa population, depuis hier, peu après-midi. Des sources concordantes renseignent que des tirs ont été entendus au moment où les autorités territoriales étaient sur place pour élever les militaires en poste accusés de plusieurs morts. Cette panique a fait croire à l'incursion des Mai Mai Bakatakatanga actifs dans ces milieux. Au regard de l'insécurité récurrente à laquelle fait face la population locale, la société civile plaide pour le renforcement de la sécurité de ces territoires qui gardent encore les séquelles des affres causées par les groupes armés. Retour sur les faits avec Jeff Mbia de la société civile et dont les membres étaient à Kintia au moment des faits. Il est au micro de Jean Gandou.
Pendant qu'on voulait procéder à la relève et aussi mettre ces gens-là à la disposition de l'inspecteur de l'auditorat qui faisait partie de la délégation, c'est comme ça qu'il y a eu des tirs où on a au début présumé que c'était l'attaque des Mai Mai Bakatakatanga, mais après vérification et des sources concordantes, on démontre que c'était réellement des militaires qui ont tiré plus de 30 balles et ce qui a semé une confusion totale. L'administration du territoire a été extrait vers Kiolo à Malimbo. Le temps de se rassurer de la sécurité à Kintia. Nous demandons à l'auditeur militaire près la cour militaire du Haut-Katanga de procéder à l'arrestation de tous ces militaires. Il faudra aussi renforcer la capacité opérationnelle des éléments des FARDC de la police. Depuis 2013, ce territoire n'a pas obtenu des moyens de mobilité. Conséquence, il est difficile à l'administration du territoire de faire l'itinérance dans cette zone qui vient d'une longue crise armée. Vous rappelez, de Mitwaba qui est l'ex-capitale du Triangle de la Mort, quoique les îlots de paix ont été créés, mais il est très important de consolider cela.
Direction la province de l'Ituri, où deux élus à la députation provinciale, Thomas Lubanga et Kawapanga, anciens leaders des groupes armés dans cette province, sont invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est en application de l'article 10 de la loi électorale qui déclare inéligibles définitivement des personnes condamnées pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Une décision contestée par le parti politique Mouvement des Libérations du Congo qui a introduit une requête à la cour d'appel de l'Ituri en faveur de son candidat Kawapanga. Isaac Raymond.
Ces deux acteurs politiques ont été invalidés par la CENI dans son second résultat provisoire des élections provinciales publié dans la nuit du 28 au 29 janvier 2024 pour erreur matérielle. Ils ont été remplacés par d'autres candidats des mêmes regroupements politiques inscrits sur la même liste. La Cour constitutionnelle les avait également invalidés lors des contentieux des candidatures à la députation nationale qui devraient être également en application aux élections provinciales. Les deux anciens leaders des groupes armés, en Ituri, ont été condamnés pour des crimes commis entre 1999 et 2023 en Ituri. Une requête d'invalidation est également introduite contre eux le 26 janvier à la Cour d'appel de l'Ituri par certaines victimes de ces violations des droits de l'homme. Cette juridiction ne s'était pas encore prononcée sur la recevabilité ou pas de cette plainte qui a été suivie par la publication du second résultat provisoire de ces élections par la CENI. Le parti politique Mouvement de Libération du Congo MLC a introduit le 29 janvier une requête sans contestation à la même juridiction. Cette formation politique demande à la Cour constitutionnelle de déclarer Kawapanga comme élu député provincial de la circonscription de Djougou. Cette mesure d'invalidation de ces acteurs politiques suscite des remous et tensions en attendant la décision de la justice. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Cinquième jour, ce mercredi, sans énergie électrique ni eau de la régie des eaux dans la ville de Kalemi et ses environs. La coupure du courant suite à une panne technique est la conséquence du manque d'eau dans la ville. Les Kalemiards recourent à l'eau du lac Tanganyika. Un reportage signé Paul Emunanga.
Très tôt le matin de ce mercredi, des hommes et des femmes avec des bidons jaunes de 20 litres et d'autres récipients se rendent au lac Tanganyika pour puiser de l'eau. Cette denrée est devenue rare à Kalemi depuis samedi dernier après la coupure de l'énergie électrique de la SNEL. Les personnes que nous avons trouvées au bord du lac Tanganyika en train de puiser de l'eau confirment qu'elles boivent cette eau après l'avoir traitée. Nous sommes ici au lac. Nous utilisons cette eau pour différents besoins. Nous avons encore deux bidons d'eau du robinet que nous utilisons pour boire. Mais si notre stock s'épuise, nous serons contraints de boire cette eau du lac en la faisant bouillir et en y mettant du chlore. Les gens viennent puiser de l'eau au bord du lac, mais cette eau est sale. Des gens viennent jeter des immondices dans l'eau et cela présente un danger de maladie pour la population. Je mets du chlore dans cette eau avant de la consommer. La SNEL informe la population de Kalemi que cette panne est consécutive à un défaut sur la ligne de transport d'énergie Bendera-Kalemi. Et elle rassure la population que ses agents sont à pied d'œuvre pour réparer la panne. Kalemi, Paul Emunanga, Radio Okapi.
Province du Kwilu, la Fédération des entreprises du Congo FEC du Grand Bandundu dénonce l'érection par la mairie de Kikwit des barrières illégales à la sortie et à l'entrée de la ville pour récolter les taxes de stationnement auprès de tous les véhicules qui passent sur la route nationale numéro 1. Dans un entretien avec Radio Okapi hier, cette entreprise condamne également la double taxation sur les produits agricoles par la même mairie. Son président, Mika Bakatembo, pense que ces situations sont aussi à la base de la hausse des prix des biens sur le marché de Kikwit. Il invite le gouvernement central à intervenir pour démanteler ces barrières. Mika Bakatembo s'est confié à Irène Mbomaluzolo.
La FEC Grand Bandundu, Fédération des entreprises du Congo, nous dénonçons l'érection des barrières illégales à l'entrée comme sortie de la ville de Kikwit par la mairie de Kikwit pour percevoir la taxe de stationnement. Imaginez-vous un véhicule en transit qui quitte Kinshasa pour Tshikapa. On va faire arrêter ce véhicule-là à l'entrée ou à la sortie de la ville pour lui demander la taxe de stationnement. Le véhicule a stationné où? Donc, le soubassement de cette taxe-là, on allait les récolter dans des parkings aménagés par la mairie et non ériger des barrières pour collecter cette taxe à tout le monde. Il y a aussi la double taxation des produits agricoles. Nous savons que les produits agricoles qui sortent de la province, il y a le service de la province qui fait le recouvrement au niveau des Massamouna. Mais comment est-ce que la mairie de la ville de Kikwit peut encore taxer les mêmes produits à la sortie de la ville? Donc c'est les doubles taxations qui influence la hausse de prix sur le marché. Nous demandons au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour qu'on puisse enlever toutes ces barrières-là qui rigent illégales et qui font souffrir la population.
Contacté à ce sujet, le maire de la ville de Kikwit, Abeng Yama, se justifie en précisant qu'il s'agit des guichets uniques créés à l'entrée et à la sortie de la ville pour éviter le coulage des recettes. D'après lui, les anciens parkings qui récoltaient ces taxes de stationnement et des produits agricoles n'existaient plus. Merci d'écouter la fréquence de la paix à Chimbulu, au Kasaï central. L'association congolaise des droits de l'homme ACIDO déplore des conditions carcérales dans les lieux de détention des détenus de la police à Chimbulu. Cette situation est à la base de l'évasion des 10 personnes, alerte le coordonnateur de cette structure, Arthur Badingani, qui parle des deux déjà récupérés, souligne que des détenus vivent dans des conditions qui ne respectent pas leur dignité en tant qu'humains. La surface d'accueil de ces cachots situés au commissariat territorial ne peut pas recevoir au-delà de 5 personnes, s'indigne-t-il. Les propos d'Arthur Badingani sont recueillis par François Kadima.
L'Association congolaise des droits de l'homme est saisie de l'évasion dans le cachot de la PNC situé au commissariat territorial de Chimbulu, deuxième ville de la province du Kasaï central, depuis le 26 janvier 2024. C'était aux environs de 23 heures pendant qu'il prévenait. 10 détenus, dont 6 arrêtés pour les violences sexuelles, se sont évadés de ces cachots. Le matin, ils ont été, 2 seulement ont été rattrapés, alors que les 8 sont partis dans des directions inconnues. Le cachot a une surface d'accueil d'un mètre et demi. À cette date, ils étaient au nombre de 10. Tous les besoins sanitaires étaient opérés dans ces lieux de détention. Leur dignité n'est pas vraiment respectée. Cela nous a vraiment préoccupés et vous voyez aussi le nombre de gens dans ces cachots qui vont avoir la facilité de s'évader.
L'invité.
Dans la province du Sud Kivu, 55 cas de lèpre ont été détectés en 2023, composés majoritairement des hommes. La lèpre, qui est une infection qui affecte principalement la peau et les nerfs, entraînant des incapacités physiques et des amputations si elle n'est pas prise en charge tôt. Des infos partagées à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Pour en parler, nous recevons un invité, Dr Freddy Birembano, médecin coordonnateur provincial du Programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose, PNLT Sud Kivu. Il s'entretient ici avec Rachel Kessembango.
Docteur Birembano, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'est-ce la lèpre?
Merci d'abord pour cette interview. La lèpre, c'est une maladie infectieuse chronique qui est causée par un microbe appelé bacille de Hansen et qui affecte principalement la peau et les nerfs. Et si elle n'est pas prise rapidement en charge ou traitée, elle amène à des incapacités physiques et même des amputations.
Comment elle se présente, cette maladie, physiquement?
C'est une dermatose, c'est-à-dire une maladie de la peau, accompagnée de l'état extrême d'une paralysie, d'une perte de la sensibilité et même de la motricité.
Comment lutter contre la lèpre?
La lèpre, anciennement, on mettait les malades en quarantaine. Et c'est cette idée qui continue à prévaloir l'esprit de la communauté, la mise en quarantaine. Mais depuis l'arrivée des antibiotiques, aujourd'hui, un malade peut être déclaré guéri après avoir pris des antibiotiques pendant 6 à 12 mois. Et un traitement précoce prévient contre les infirmités et les amputations. Ça, c'est sur le plan traitement. Mais actuellement, de plus en plus, avec la science, on peut prévenir l'apparition en administrant aussi des médicaments à tous les contacts de patients souffrant de la lèpre.
Est-ce une maladie contagieuse?
Oui, la lèpre reste une maladie contagieuse. Elle se transmet par voie aérienne à travers les gouttelettes après un contact qui est régulier et fréquent avec un malade. Donc toute personne contactée la lèpre, même si elle reste une maladie moins contagieuse, mais c'est une maladie qui se transmet d'une personne malade à une personne saine.
Quelle est la situation actuelle au Sud Kivu, l'état des lieux que vous faites de la lèpre dans notre province?
Pour rappeler, le Congo est parmi les 4 pays au monde qui notifient le plus. En moyenne, le Congo notifie à peu près 3 000 à 4 000 cas par an. Et le Sud Kivu est l'un des foyers de la lèpre au niveau du Congo. Et nous avons eu dans le temps des sanctuaires, beaucoup de sanctuaires. Et au Sud Kivu, c'est dans ces sanctuaires que nous retrouvons des cas. Bien que la tendance est à la baisse, parce que si nous comparons les données des 10 dernières années, nous sommes passés de 100, une centaine de cas. Actuellement, pour l'année 2023, on est à 55 cas. La majorité, ce sont des hommes. Les femmes sont aussi affectées. Également, les enfants de moins de 5 ans, on compte 5% d'enfants malades.
Et pour finir, docteur, quelles actions menez-vous au niveau du programme national de lutte contre la lèpre, justement dans le cadre de remédier ou de combattre cette maladie?
Oui, la lèpre a été déclarée éliminée depuis 2007, ce qui a fait que, bon, même le financement on tarit, mais qu'à cela ne tienne, le programme continue à exister parce que, pas que éliminé, le programme est appelé de renforcer la surveillance, c'est-à-dire de rechercher les nouveaux cas, de prévenir de nouvelles infections, de traiter les malades qui sont dépistés et aussi de sensibiliser. Comme cette occasion, c'est en marge de la Journée mondiale de la lèpre qui est célébrée chaque dernier dimanche du mois, où le thème c'est vaincre la lèpre et les conséquences. Et aussi, comme sous-thème qui a été repris par le niveau national, c'est non à la stigmatisation et oui à la dignité de la personne souffrant de la lèpre. Donc tout ce que nous voyons autour de ces cas, la propagation, c'est lié au fait que les gens ayant à l'esprit la quarantaine ont tendance à stigmatiser, à rejeter, alors que cette maladie actuellement est curable en peu de temps avec le moyen que nous avons. Et nous profitons de cette occasion pour rappeler aux gens que, à la population du Sud Kivu, que la lèpre existe. La lèpre est bien vivante dans notre province et le programme, au travers le ministère de la Santé, la division provinciale de la Santé, nous ne ménageons aucun effort pour rechercher les nouveaux cas, prévenir les nouvelles infections et surtout traiter. Les traitements restent gratuits. Donc, au premier signe de dermatose constaté sur la peau, nous demandons aux compatriotes de consulter le premier centre pour recevoir le soin gratuitement.
Je vous remercie, docteur.
Merci, madame.
Notre invité, le docteur Freddy Birimbano, est interrogé par Rachel Kessimbango depuis Bukavu. Ainsi s'achève ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Alain Rungmochins. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré la mise en onde. Merci à vous tous qui nous avez suivis et vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Au Kapi Soir avec Nicole Koudiangela.